tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Alors qu'une grande marche pour le climat s'ouvre aujourd'hui, que la mobilisation pour les retraites ne faiblit pas, vivre à la marge, vivre reclus, se retirer du monde pour mieux lui résister, invité de 12h. 55, Philippe Artière, auteur du dossier Chaud Sauvage et Vertical. Dans ce livre enquête, l'historien revient sur ses vies d'ermite et notre rapport à la marginalité entre attirance et répulsion. Mais d'abord, l'Opéra de Paris reprend pour les fêtes un ballet contemporain devenu un classique de son répertoire. Créé il y a 25 ans, Le Parc est aujourd'hui l'une de ses pièces maîtresses. Le chorégraphe Angelin Preljocage est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, ce sera sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le Parc, une pièce chorégraphique créée il y a 25 ans à l'invitation de Brigitte Lefebvre de l'Opéra de Paris, tout juste nommée à la direction du ballet. Elle fait appel à vous à ce moment-là, Angelin Preljocage, bonjour.
Bonjour.
Et ça, c'était audacieux en 94 de faire appel à vous, à un jeune chorégraphe qui excellait déjà dans le contemporain.
Oui, parce que évidemment, d'abord, je crois que les danseurs n'étaient pas comme aujourd'hui aussi, je dirais, ouverts en termes de stylistique à l'époque. Et puis moi, j'étais pas tout à fait un débutant, mais j'étais un jeune créateur, voilà, qui démarrait, qui. D'ailleurs, je dis ça parce que je me rappelle très bien de comment j'étais, comment je suis arrivé à ma première répétition.
Comment?
Assez tendu, assez impressionné par cette troupe mythique, donc créée par Louis XIV. Enfin bon, il y a toute une histoire derrière. C'est vraiment c'est très impressionnant pour un jeune chorégraphe. Quand bien même il est chorégraphe contemporain, voilà, au contraire même, c'était impressionnant. Et du coup, je me rappelle très bien que j'ai préparé mes répétitions pendant des heures et des heures avant de me retrouver face à eux.
En vous disant, il faut que j'en impose ou que je m'impose aussi également.
Oui, c'est ça. Exactement.
Et alors, vous avez choisi quelle attitude pour vous faire accepter?
J'ai choisi une attitude, je crois, assez humble, c'est-à-dire d'essayer à la fois d'être responsable, c'est-à-dire au sens de répondre, hein, dans responsable, il y a répondre, c'est-à-dire être à même de répondre à leurs questions, à leurs à la fois leurs inquiétudes aussi parfois, et puis d'être capable de répondre à ce que je leur propose, c'est-à-dire de préciser, d'être voilà. Et puis en même temps, j'avais envie de prendre ce qui était chez eux l'excellence de ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Et donc le spectacle, justement, est une sorte d'hybridation de ce qu'ils sont, de leur qualité et de ce que j'ai essayé de leur apporter avec un style plus contemporain, parfois minimal, parfois animal, parfois voilà. Donc c'est une espèce de mélange entre une élégance très spécifique au ballet de l'Opéra de Paris et puis une expression chorégraphique voilà, peut-être plus ancrée dans notre histoire actuelle.
Et ça, c'est devenu la méthode Preljocage où vous vous êtes arrondi, vous avez beaucoup changé aussi avec les années dans la manière de parler à vos danseurs.
Non, finalement tout ça est resté la même chose. Que ce soit, quand je suis allé au New York City Ballet, j'ai fait exactement la même chose. J'ai vu qu'ils avaient certaines spécificités qui étaient liées. Par exemple, Balanchine et Jérôme Robbins, qui dirigeaient le New York City Ballet, étaient très influencés par Broadway, puisqu'ils étaient juste à côté. Hein. Et donc, il y avait tout un travail du bas de jambe qui était presque relié au tap dance, enfin les claquettes. Et donc, il y avait une rapidité du bas de jambe qui était impressionnante, que j'ai utilisé aussi dans les chorégraphies que j'ai fait pour eux.
Porté par la musique de Mozart, vous imaginez donc ce parc et vous l'imaginez poétique, touché par la grâce. C'était volontaire d'en faire d'ores et déjà en 1994 une pièce qui est devenue vraiment intemporelle?
Ben non, en fait, je me suis pas trop rendu compte de ce que je faisais. Enfin si, bien sûr, enfin, j'avais des aspirations, j'avais cette idée de prendre l'historique de cette compagnie et d'essayer de voir qu'est-ce que moi j'allais apporter. Et donc, en cela, j'ai créé une sorte de dramaturgie qui est liée à la princesse de Clèves, puis pour la ramener à Louis XIV et au XVIIe siècle aussi. J'ai pensé beaucoup aussi à la carte du tendre de Mademoiselle de Scudéry, et des choses comme ça. Et avec des... Alors, bien sûr, il y a Mozart, il y a Goran Vejvoda aussi qui apporte des éléments sonores qui apportent des ambiances, des atmosphères. Et puis, j'ai essayé de raconter une histoire qui soit à la fois donc liée à cette littérature et en même temps qui regarde vers aujourd'hui, en fait.
Une carte du tendre où les danseurs cultivent ce jardin. Une carte du tendre définie par Moustaki comme presque ce qui donne aujourd'hui le décor à cette pièce. On découvre au bord du tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli. Et il y a effectivement dans cette pièce ce pas de deux qui appelle à l'abandon d'ailleurs, peut-être plus qu'à l'oubli. Vous l'avez créé, ce parc, pour et avec les étoiles Isabelle Guérin et Laurent Hilaire, depuis repris par d'autres duos, dont un autre fameux, celui de Aurélie Dupont avec Manuel Legris. On les retrouve en répétition avec vous qui veillez, bien sûr, c'était il y a 10 ans, devant la caméra de Cédric Clapiche, extrait du documentaire Aurélie Dupont, l'espace d'un instant.
Voilà, c'est ça, Manu, laisse la dériver. C'est super cette qualité. Voilà.
C'est super que je l'ai entendu aujourd'hui parce que je l'avais perdu.
Ouais. Tu vois, c'est elle qui t'emporte en fait. Ouais, plutôt que toi, tu m'as
perdu et du coup j'étais là et puis ça partait. Ouais. Et là, du coup, tout d'un coup,
ça coule bien. Ouais. Et après, à la fin, ça va, vous pouvez tenir ou...
Oui. Parce que là, en lui faisant le bisou, je lui demandais si ça allait, s'il était encore.
C'est bon,
je tiens encore.
Voilà, extrait des répétitions du parc il y a une dizaine d'années avec Aurélie Dupont. À chaque fois que le parc est repris, vous êtes là pour indiquer aux danseurs comment l'interpréter?
Oui, et puis... Oui, mais en fait, je leur fais assez confiance. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de répertoire, finalement, c'est de penser, et ce qui est vrai, que c'est les interprètes qui réactivent le ballet. Et que c'est eux qui font que un ballet peut-être a une chance de rester soit intemporel, soit de retrouver une actualité en fait.
Et là, ils seront 4 couples différents à danser ce mois-ci à l'Opéra de Paris. Ouais. Parmi eux, Eleonora Abagnato qui fera ses adieux dans les bras de Stéphane Bullion. Ce sera le 23 décembre dans une représentation qui est déjà complète. Racontez-nous encore et encore, si vous le voulez bien, ce pas de deux, cette scène d'anthologie où elle pose ses lèvres sur les siennes avant l'envol. Comment est né ce moment qui a fait le tour du monde? À partir vous l'avez imaginé?
Il est parti de la musique, qui est complètement incroyable, qui est... où il y a une espèce de notion d'abandon, d'offrande des corps, à la fois une jouissance et une souffrance, presque. Ça me fait penser à Jean Genet. Ce baiser qui est venu d'une note, juste une note totalement isolée dans ce concerto pour piano numéro 23. Une note qui arrive en plein milieu et qui est suspendue toute seule et que j'ai assimilée dans ma tête à un baiser. Et voilà, et je suis parti de ce baiser pour créer la suite du pas de deux.
C'est un pas de deux qui est techniquement difficile à réaliser, qui requiert des qualités particulières.
Mais il est assez simple, comme parfois même Mozart sait le faire avec la musique, c'est-à-dire que quand on entend, on a l'impression que c'est naturel et simple, et puis en même temps, ça demande une grande virtuosité.
On ne s'en lasse pas de l'entendre, ce concerto de Mozart.
Merveille.
Merveille.
Pure.
2 ans après avoir créé le parc Angelin Preljocage, vous fondez votre compagnie, le Ballet Preljocage, aujourd'hui composé d'une vingtaine de danseurs,
oui.
Toujours installés à Aix-en-Provence depuis 2006 dans le Pavillon Noir, un bâtiment conçu par l'architecte Rudy Ricciotti. Alors Rudy Ricciotti, on l'avait récemment autour de cette grande table, il nous disait « La beauté, c'est au minimum ce qui produit de l'émotion, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être fiers de constater que la laideur ne nous a pas totalement envahis. » Quelle est, vous, votre définition de la beauté? Où est-ce que vous la trouvez, Angelin Préchocage?
La beauté, je pense que c'est quelque chose qui est lié à la puissance et à la fragilité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se cristallise à cet endroit-là, à l'endroit où la puissance... tout à coup, trouve son point de basculement vers une fragilité.
Est-ce que comme lui, comme Rudy Ricciotti, vous pensez que la beauté a de plus en plus tendance à s'exiler?
Oui, je suis d'accord. Je crois que... Non, puis c'est surtout qu'on a l'impression aujourd'hui que parfois la beauté fait peur aussi. Et qu'on n'ose pas la beauté parfois aussi. Quand on crée, ça peut être une sorte d'écueil dans lequel on a peur d'être englouti et il peut y avoir une sorte de pudeur aussi face à la beauté, à la grâce. Et je pense qu'il faut savoir l'articuler dans le sens, dans une idée de composition. C'est-à-dire que la beauté, c'est parfois seulement un moment, c'est pas une chose globale qu'on peut calquer comme ça sur une œuvre. Il y a toujours un détail dans une œuvre, que ce soit une peinture, une musique, une œuvre littéraire. Il y a toujours un moment qui cristallise tout ça, en fait.
Mais vous la voyez surtout dans l'art, plus que dans le quotidien. Elle se pense, elle s'orchestre, elle se compose, surgit.
Pardon, excusez-moi,
non,
là j'ai été très limité dans mon propos, mais effectivement, là, comme on parlait de danse, musique, architecture, je suis resté dans le champ de l'art, mais bah, évidemment, la beauté, on la trouve dans la vie aussi, heureusement.
Cette distinction entre la complexité de l'art et le quotidien, C'est l'un de vos maîtres à penser ou maîtres à danser, le chorégraphe américain Merce Cunningham, qui l'a fait. On l'entend dans un film apparaître, à sortir bientôt, ce sera le 1er janvier, d'Ala Kovgan, consacré au maître Merce Cunningham, à qui le Châtelet vient d'ailleurs de rendre un hommage, sans les compositions de son complice Philip Glass.
J'allais à l'école à Seattle. Monsieur Cage était là et nous donnait des cours de composition. C'était si étonnant que je n'ai jamais oublié. L'année suivante, je suis parti à New York et Monsieur Cage m'a rejoint. Depuis lors, il écrit de la musique pour moi.
Les gens ont souvent défendu l'art sous prétexte que la vie est chaotique. Nous aurions donc besoin de l'art pour nous en évader. Je voudrais que l'art soit si déconcertant, complexe et illogique que nous aurions au contraire plaisir à revenir à la vie quotidienne.
J'aime tellement Philip Glass que je l'ai annoncé à la place de John Cage, pardon. Merce Cunningham, à propos de la complexité de l'art, où elle se niche pour vous, cette complexité?
La complexité.
dans la difficulté à lire ce mot.
Je crois que c'est peut-être là-dedans que ça se niche. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois on peut arriver à une chose très épurée, très simple, et c'est très complexe de faire une chose simple et belle, justement. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est un peu comme quand on dit parfois improviser, ben en fait ça ne s'improvise pas. Voilà, être un bon improvisateur, c'est quelque chose qui se travaille. Eh bien, je pense que créer quelque chose de beau, de simple, c'est un travail qui demande beaucoup d'habileté, de préparation, de réflexion, de profondeur aussi. Ouais.
180 créations à peu près pour Merce Cunningham sur 60-70 ans de carrière. Ouais. Il ne s'agit pas de battre le record. Mais vous en êtes à combien?
Je les compte pas, en fait. Non,
Si vous les comptiez, ça donnerait le vertige?
Non, mais en fait, je regarde toujours mon travail, le travail qui est devant moi plutôt que celui qui est derrière, en fait. Donc, là, je pense beaucoup à des projets que j'ai qui sont devant moi. C'est ça qui est le plus passionnant.
Et pourtant, vos pièces se retrouvent, se jouent et se rejouent aussi. Et elles continuent à voyager, pas simplement dans l'Hexagone, dans le monde entier. Merce Cunningham avait John Cage et vous.
Ben moi, j'ai tous les compositeurs du monde, et éventuellement. C'est-à-dire que c'est...
Mais pourquoi pas un?
Pardon?
Pourquoi pas un?
Parce que j'essaye toujours de trouver des collaborateurs et des collaborations qui sont en phase, qui sont en résonance avec les thèmes que je choisis. Donc, et comme je suis très, je m'intéresse à des choses très diverses. Évidemment, du coup, je travaille avec des compositeurs et des collaborateurs divers.
Vous vous êtes inspiré beaucoup de la littérature. Souvent, il y a des citations dans vos ballets et la peinture. On sait là encore la complicité qu'avait Merce Cunningham pour le plasticien Robert Rauschenberg. Dans l'une de vos dernières pièces, le ballet Winterreise, qui a été présenté au Théâtre de la Scala de Milan en janvier dernier, puis au Théâtre des Champs-Élysées cet automne à Paris. C'est une pièce extrêmement visuelle dans cette succession de tableaux que vous avez mis en scène, Angelin Preljocage. Là, on vous sent un peu entre Soulages et Rodko. Est-ce que sont des références qui vous parlent?
C'est joli parce que, en fait, Soulages, au moment où on a travaillé avec Constance Guisset qui a fait la scénographie, on ne pensait pas vraiment à Soulages, mais c'est vrai que c'est ce qui se dégage de l'esthétique de ce ballet. Cette profondeur du noir qui est liée aussi au voyage d'hiver et à ces chants mélancoliques de Schubert. Mais ce qui est magnifique dans cette œuvre, c'est à la fois les poèmes de Wilhelm Müller, mais surtout la musique de Schubert. Et je me suis beaucoup appuyé sur la musique. Et c'était un vrai bonheur de travailler là-dessus.
Qu'est-ce qu'elle nous dit de vous, ce ballet-là, ce Winterreise? Quel voyage vous avez voulu réaliser avec vos danseurs?
Ben, un voyage... Je disais souvent que, contrairement au Werther de Goethe, qui s'est suicidé d'une façon très brutale hein, donc dans cette œuvre, on a un peu l'impression que le voyage d'hiver, c'est un suicide au ralenti. C'est-à-dire quelque chose qui s'étale dans le temps, qui prend le temps. En fait, le protagoniste se promène, il erre comme ça dans la ville, dans la campagne, dans la vie même, comme quelqu'un qui attend et qui cherche la mort partout. Mais il n'a pas non plus cette espèce de vigueur de celui qui se donne la mort d'un seul coup, comme ça, d'un coup de pistolet dans la tête. Et donc, il y a une espèce de poids, de nostalgie, de dérive qui est très, très émouvante.
Le chorégraphe Angelin Prelle-Jocage est notre invité jusqu'à midi et demi. Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi 22 déjà.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Avec nous jusqu'à midi et demi pour parler de danse et notamment de son parc qui est repris actuellement à l'Opéra de Paris. Jusqu'à Noël, c'est le ballet parfait pour les fêtes. C'est intéressant parce qu'au même moment, l'Opéra de Paris a repris aussi un grand classique de Nureyev, Raymonda. Vos deux ballets vont se croiser et on voit cette institution toujours danser sur ses deux pieds, à la fois le classique et le contemporain. Paulina, Danser sa vie, réalisée avec Valérie Müller. Par vous, Angelin Prelle-Jocage, une jeune danseuse russe qui abandonne une carrière toute tracée au Bolshoï pour ses rêves de liberté à Paris, un peu à la manière de Nureyev, hein, des années après. Un film qui dit l'effort et qui dit aussi la réinvention permanente de la danse et du corps pour les danseurs. Regarde autour de toi. L'artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui regarde le monde, dit la professeure incarnée par Juliette Binoche à Paris. Elle a raison ?
Oui, je crois que l'artiste est là pour régurgiter le monde, je dirais. C'est-à-dire qu'il doit regarder le monde et puis en donner sa version et peut-être régurgiter une part de l'inconscient collectif à travers l'œuvre, en fait.
C'est pas joli comme mot, régurgiter.
Oui, mais c'est un truc de bébé, peut-être.
C'est ça. Sans le temps de la digestion.
Voilà.
D'accord.
J'ai pas dit vomir le monde.
Comment la danse peut changer un individu pour vous? Comment elle vous a aussi transfiguré?
Alors, la danse peut transformer des individus. J'en ai fait l'expérience il y a quelques mois, puisque j'ai travaillé avec des femmes détenues de la prison des Baumettes, qui n'étaient pas du tout des danseuses. Et je me suis attelé à un travail avec elles pour créer une espèce d'atelier. Et puis... qui s'est finalisé avec un petit spectacle qui a été donné au Pavillon Noir et puis au Festival de Montpellier cet été. Et j'ai vu comment ces femmes non danseuses avec des corps, je dirais pas à l'opposé, parce qu'il n'y a pas d'opposé comme corps à un danseur, mais des corps très différents que les corps de danseurs. J'ai vu comment ces femmes ont évolué, comment elles se sont transformées, comment elles se sont ouvertes aussi, alors qu'elles étaient justement enfermées. Donc, et ça m'a donné l'idée que vraiment la danse a un pouvoir sur les êtres, oui.
Mais ça, vous l'aviez constaté presque instinctivement dès le départ, puisque votre envie de danse est née d'une photographie de Nureyev que vous aviez vue lui-même déjà transformée par cette danse, par cette pratique. Et c'est aussi cette métamorphose possible que la danse offre aux hommes et aux femmes qui vous a tout de suite attiré.
Oui, et là c'était plus dans... C'est-à-dire... qu'un spectateur peut être bouleversé et changé par une émotion chorégraphique, je dirais, mais aussi la danse, c'est-à-dire la pratique de la danse et s'approprier corporellement le mouvement peut être quelque chose de tout à fait salvateur pour des gens, pour l'humanité peut-être même.
Où se niche la différence entre le classique et le contemporain? Peut-être dans cette philosophie qu'on entendait dans la bouche ou qu'on évoquait dans la bouche de Juliette Binoche tout à l'heure. L'artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui regarde le monde. Écoutons la grande danseuse Marie-Agnès Gilot parler de la différence de son travail techniquement entre ces deux danses.
En contemporain, le chorégraphe vous demande souvent de participer à la création. Donc vous devez proposer un langage, vous devez proposer des pas, une forme. Donc on est tout de suite mis dans l'action de commencer à créer sur soi, quoi. Donc forcément, c'est certainement les premiers pas du cheminement jusqu'à la création. Mais d'abord, on sert les autres dans la création. On sert le chorégraphe. Les danseurs classiques, souvent, ils ont un haut du corps qui est très très raide. Puisqu'en fait, pour s'élever, du coup, on a une cage thoracique, on a des abdos et un dos très en place. Alors qu'en contemporain, on est toujours dans la mouvance de la cage thoracique, du ventre, des bras, des côtés, des ondulations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en classique. Alors qu'en fait, on pourrait s'en servir parce que les micro-waves ça donne de l'émotion en plus, mais on s'en sert pas parce que nous, on nous a appris ça. Mais, c'est juste que c'est une espèce de tenue qu'on a qui est un peu raide.
Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport immédiat dans la danse entre le corps de danseur et aussi l'intention du chorégraphe. Gisèle Vienne, récemment, nous parlait de l'immense pouvoir du chorégraphe, comme des metteurs en scène d'ailleurs, sur leurs danseurs, sur le corps des danseurs. Comment l'utiliser à bon escient? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que vous posez aussi, Angelin Prelle-Jocage?
Moi, je travaille avec des êtres humains, donc je comme je suis un être humain aussi, je me sens pas au-dessus d'eux. Je me sens avec des gens qui sont là pour, je dirais, pour atteindre les mêmes buts et objectifs que moi, d'une certaine manière. On est tous là pour créer ensemble une œuvre, voilà, qui est adressée à un public, voilà, et donc j'essaye de... Ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est quelque chose qui vient simplement, en fait, par une façon d'être. Et je n'aime pas du tout les gens qui arrivent en imposant une autorité comme ça. Donc le travail se fait naturellement chez moi avec ma compagnie, dans un échange permanent et un respect des uns et des autres.
Ça, c'est primordial. Elle ne doit pas, cette autorité, s'extirper. Elle ne doit pas s'attraper au détriment des danseurs.
Non, elle doit s'imposer d'elle-même. Elle ne se décrète pas. En tout cas, ça, c'est sûr. Oui.
Merci beaucoup à vous, Angelin Prelle-Jocage, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre parc est repris en ce moment à l'Opéra de Paris jusqu'à la fin décembre. Plusieurs dates aussi de vos spectacles à retrouver sur le site de La Grande Table sur franceculture.fr et notamment Gravité qui arrivera du 27 au 31 décembre à l'Opéra Royal de Versailles, juste après Compiègne et Roubaix et juste avant Arcachon, Nice ou encore La Rochelle. Winterreise qu'on évoquait du 11 au 12 février à voir à Nantes, puis du 27 au 28 à Budapest. Ce sera aussi Bordeaux, Rennes et Marseille, là que le public pourra retrouver cette pièce de vous. Enfin, Playlist sera à voir à Paris du 2 au 5 juillet, c'est-à-dire l'été prochain. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.